Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence, toujours nombreuses. Ça fait plaisir de vous retrouver aussi nombreux. Bienvenue donc pour cette conversation en compagnie de Valérie Zenati. Bienvenue à vous, ma chère Valérie. Vraiment très, très heureux de vous recevoir pour parler avec vous de votre nouveau roman publié en cette rentrée d'hiver aux éditions de l'Olivier, votre éditeur historique, pourrait-on dire. Ce livre qui s'intitule Qui vive, on va y venir bien sûr et en parler en détail pendant cette conversation. Vous êtes écrivaine, vous êtes scénariste, vous êtes également traductrice. On aura l'occasion d'en parler puisque il est question aussi dans ce livre du rapport à la langue, me semble-t-il, et c'est une dimension qu'on évoquera pendant la conversation. Vous aviez débuté en littérature avec des livres pour la jeunesse, notamment Quand j'étais soldate, qui racontait votre expérience en Israël, puisque vous y avez vécu pendant un certain nombre d'années, pendant votre adolescence, et que vous avez fait par définition votre service militaire là-bas. Un autre livre qui, pour la jeunesse, qui s'intitule Une bouteille dans la mer de Gaza, qui est un livre qui, depuis 20 ans, a un succès et un trajet, et un itinéraire fou. Et j'invite tous les lecteurs, les jeunes lecteurs, les parents à aller voir ce livre qui dit énormément de choses et peut-être encore plus de choses aujourd'hui dans le contexte que l'on connaît au Proche-Orient. Vous êtes passé ensuite à la littérature générale, si on peut dire, avec un livre qui s'intitule En retard pour la guerre, qui avait donné lieu d'ailleurs à une adaptation au cinéma sous le titre Ultimatum. Vous aviez co-scénarisé, je crois, ce film-là avec le regretté Gaspard Ulliel. Et puis vous avez publié ensuite de nombreux romans à l'Olivier. On reparlera peut-être pendant cette conversation d'un livre qui s'appelle Les âmes sœurs, puisqu'il y était déjà question un petit peu de Léonard Cohen, mais on aura l'occasion d'y revenir. Et puis un autre livre, Jacob Jacob, qui a été prix du Livre Inter en 2015. On parlera aussi peut-être d'un autre livre, Dans le faisceau des vivants, qui évoquait une relation très importante dans votre vie, qui est celle qui vous a lié au grand écrivain israélien Aaron Appelfeld, dont vous êtes la traductrice. Il reste encore quelques livres, mais vous en avez déjà traduit un certain nombre. Et puis donc ce livre-là, Qui vive, je vais en dire quelques mots. Et puis ensuite, on va rentrer tout de suite dans le texte avec un petit temps de lecture. Ce livre-là met en scène un personnage qui s'appelle Mathilde, qui est enseignante, qui est professeure d'histoire géo, et qui ressent une sorte, je ne sais pas si on doit dire, d'inquiétude, d'intranquillité au monde. Une sorte de désorientation qu'on découvre au tout début du livre et qui va l'emmener à faire une sorte de rupture dans sa vie quotidienne avec son époux, avec sa fille, et de s'en aller comme ça sur les routes pour partir en Israël et faire une sorte de road trip, pourrait-on dire, au fil du territoire. Un livre qui est d'abord une quête personnelle, une quête existentielle d'une certaine manière, et puis qui fait résonner évidemment tout un tas d'enjeux dans un endroit du monde qui a évidemment aujourd'hui une très forte actualité. Je précise que ce livre avait été écrit avant les événements du début octobre, mais évidemment, on lit ce livre d'une certaine manière, on en parlera pendant la conversation. Et puis un livre qui, me semble-t-il, parle du rapport aussi à la manière dont la littérature envisage le rapport au monde, comment est-ce qu'il dit le monde, et pourquoi pas comment est-ce que la littérature le pressent ce monde-là. Voilà, quelques mots pour essayer de poser les enjeux de ce livre autour du personnage de Mathilde. Je vais peut-être vous proposer un petit temps de lecture pour qu'on entende votre voix, votre langue, et puis on passera à la conversation par la suite.
Merci Yann et merci beaucoup à vous tous et toutes d'être là. C'est là, c'est peut-être là qu'est née l'impulsion qui jaillirait des années plus tard. Lorsque j'ai appris la mort de Léonard Cohen par une alerte sur mon téléphone à 5 heures du matin, dans un réveil bref et halluciné, par ce geste devenu mécanique de tendre une main pour s'informer de l'heure et des secousses du monde. Parfois pour découvrir le message d'un être aimé qui dilaterait le cœur. J'ai lu son nom, son âge, le fait qu'il était mort, et j'en ai eu la poitrine crochetée de stupeur, parce que Donald Trump venait d'être élu président des États-Unis. J'ai reposé le téléphone, me suis rendormie, et j'ai rêvé que j'apprenais la mort de Leonard Cohen à la radio, et je me suis réveillée en pleurant. Julien m'a serrée contre lui. Tu as fait un cauchemar? Tout va bien, on a le temps, on ne bosse pas aujourd'hui, on est tranquille. Une nouvelle vérification sur mon portable m'a assuré que l'information était réelle. Nous étions le 11 novembre 2016. Donald Trump avait été élu le 8, Leonard Cohen était mort le 7, mais la famille avait gardé la disparition secrète. Je me suis demandé pourquoi. Pendant quelques jours, nous avions vécu sans savoir. Et découvrir cette dissimulation était un autre choc. j'ai pensé. Si l'annonce avait été rendue publique à l'ouverture des bureaux de vote de la côte Est, cela aurait peut-être influé sur le cours de l'histoire. Des millions d'abstentionnistes auraient secoué leur indifférence et afflué vers les urnes pour empêcher une deuxième catastrophe. On aurait pu voir quelques républicains sensibles changer d'avis, comprenant qu'il était impossible que dans un même souffle, un homme délicat disparaisse et un homme brutal prenne le pouvoir.
Merci beaucoup Valérie pour cette lecture introductive. Peut-être peut-on partir de là très simplement, je disais, une crise existentielle, une intranquillité au monde pour ce personnage de Mathilde, et finalement peut-être ce qui constitue le moment charnière, et la littérature est souvent là pour explorer cela, cette double information qui à un moment donné électrocute d'une certaine manière le personnage ou va l'amener finalement à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Est-ce que c'était ça d'abord l'impulsion du livre, prendre un personnage qui était à un moment charnière et à un moment de rupture dans son existence?
L'impulsion première n'a pas été celle-là, parce qu'un livre, en tout cas en ce qui me concerne, se présente, mûrit, se construit, se travaille. Et donc, si j'essaie de remonter à la source, c'est le personnage de Mathilde m'est apparu, on va dire, en 2020, au moment des premiers confinements et du couvre-feu lié à la pandémie de Covid-19. Et ce personnage est arrivé avec son prénom, son métier. Alors, quand j'y étais arrivée, je sais que ça peut paraître toujours un peu étrange de dire, mais enfin, ça veut dire quoi? Un écrivain décide d'écrire sur ceci ou cela. Non, moi, je ne décide pas. Lorsque je n'écris pas, je suis un peu en état d'alerte et je sais que je vais vers un livre, mais je ne le connais pas. Et donc, j'examine, on va dire, chaque jour ou pas, mais des idées, des personnages, une voix, quelque chose. Voilà, il y a un matériau comme ça qui est là en permanence. Et puis, à un moment donné, quelque chose se précise. Et là, à un moment donné, le personnage de Mathilde s'est précisé. Et avec, vous l'avez dit, son métier directement, c'est-à-dire professeur d'histoire géo, qui est une spécialité qui existe, je crois, quasiment qu'en France. Dans la plupart des pays, les gens sont professeurs d'histoire ou de géographie, mais pas d'histoire géo. Et la France est le seul pays qui, en quelque sorte, réunit dans une matière comme ça, reliée par un tiret, l'espace et le temps. Voilà. Et Mathilde est apparue comme quelqu'un qui est profondément relié à ça, à l'histoire, à la géographie, à l'espace, à le temps. Et à la faveur de ce bouleversement inouï vécu par l'humanité en 2020, elle est ébranlée dans sa vision de l'histoire, parce qu'elle a l'impression que l'histoire prend un cours indéchiffrable, opaque, qu'un événement historique a eu lieu et que pourtant personne ne semble vraiment le mesurer. Et donc, elle est partie de là. Et ensuite, en commençant à écrire, j'ai trouvé la source que vous évoquiez, celle donc de la mort de Leonard Cohen au moment de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et ce moment où le poétique et le politique se sont entrechoqués. Et c'est comme ça qu'ensuite est venue cette rupture. Voilà, ça s'est construit comme ça.
Ce qui est très intéressant, je parle de crise existentielle, c'est que souvent dans la littérature, on lit des personnages, notamment autour de la quarantaine, qui ont des crises, on appelle ça la crise de la quarantaine,
oui, des crises ou de la cinquantaine.
Ou de la cinquantaine, des crises personnelles, intimes. Oui. Et là, en l'occurrence, elle est mariée, elle a une fille, elle est dans une sorte de cocon familial, en tout cas c'est comme ça que le lecteur le reçoit, et finalement sa crise à elle, elle est en rapport avec l'extérieur, elle est en rapport avec le monde extérieur et avec la grande histoire. Oui. Peut-être pouvez-vous nous parler un peu de cette dimension-là, qui est évidemment au cœur du personnage.
Ah oui, mais j'aime beaucoup que vous releviez ça, le fait que on peut écrire aujourd'hui encore, en 2024, un livre où un couple va bien, ça existe aussi. Et donc, Mathilde est mariée à Julien, avec Julien, et effectivement, on sent que c'est quelqu'un de très bien, Julien. Ils ont une fille. Cette crise, ce bouleversement, en effet, ne vient pas du tout d'un mal-être qui serait celui d'une femme qui n'est pas heureuse avec son mari ou qui a le sentiment d'avoir raté sa vie. Elle est professeure d'histoire géo, et comme je l'ai dit, et on sent qu'elle aime ses élèves et qu'elle aime son métier. Et c'est précisément à cet endroit-là que le bouleversement a lieu, parce que ce qu'on va comprendre un peu plus tard, puisque bon, le livre est écrit à la première personne, c'est que Mathilde vient d'une famille pratiquante et elle a cru en Dieu. Petite, elle a cru en Dieu. Ça aussi, ça existe. Voilà. Souvent en France, on a le sentiment que la question de la foi est quelque chose qui est daté. Mais la foi, ça existe. Et voilà, ça existait dans sa famille. Et elle a perdu la foi juste avant l'adolescence. Et elle a fait de l'histoire, enfin, elle dit à un moment donné que l'histoire a remplacé Dieu. C'est-à-dire que là où la religion semblait, enfin, lui avait donné pendant son enfance les clés, les règles, et surtout la religion donne quand même, a priori, des explications sur les grands mystères que sont la vie et la mort. Et quand il n'y a plus la religion pour dire la vie et la mort, ben, Mathilde, elle est allée vers l'histoire. Et elle s'est dit, voilà, l'histoire, ça explique tout, ça explique les mouvements des êtres, ça explique les destinées, et elle a fait de l'histoire en quelque sorte sa religion. Et donc, ce qui est sa religion, qu'elle souhaite transmettre, elle a un vrai désir de transmission avec ses élèves. Et donc là, ce qui est la crise a lieu parce que entre le Covid, la guerre en Ukraine qui succède, qui commence alors que la pandémie n'est même pas finie, elle a le sentiment qu'elle n'a plus de prise sur les événements, pas de prise réelle parce qu'elle ne peut pas les changer, mais qu'elle est incapable de les intégrer, qu'elle est incapable d'en dire quelque chose. Et alors là, peut-être qu'on va parler de Leonard Cohen, mais elle va décider en quelque sorte de quitter la scène.
Peut-être encore une chose sur ce sujet, parce qu'il y a effectivement, vous l'avez évoqué, le Covid, la guerre en Ukraine, et puis il y a un certain nombre d'autres signaux en fait, qui remontent à la surface, le 11 septembre 2001, les attentats de Paris, il y en a d'autres, et c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre, on y reviendra au fil de la conversation, du retour de l'histoire. Il y avait cette fameuse idée de la fin de l'histoire avec Francis Fukuyama, toute une génération qui a été portée par cette idée que l'histoire était terminée. Et là, il y a une sorte de retour en force de l'histoire. Et peut-être que cette génération-là est d'une certaine manière débordée par ce trop-plein d'histoire. Peut-être là aussi, pouvez-vous préciser cette dimension-là?
Alors, ça rejoint quelque chose que vous avez dit dans l'introduction et qui me tient à cœur, c'est que, très modestement évidemment, parce que je fais les choses avec mes moyens, mais ce livre, pour moi, est une sorte de... C'était une... voilà, une sorte de réponse à l'époque et d'envie de faire entrer en littérature ce sentiment, qui est un sentiment, qui n'est pas forcément une réalité, mais ce sentiment que l'époque, depuis le début du XXIe siècle, nous secoue régulièrement dans des secousses très violentes où on a chaque fois le sentiment qu'on perd notre innocence, qu'on croyait que... Voilà, le monde pouvait être beau, la paix pouvait exister. On croyait que, et puis il y a quelque chose qui arrive et qui s'effondre. Et on a le sentiment que ça s'est accéléré, que c'est quelque chose qui s'est accéléré depuis le 11 septembre, effectivement. Je ne suis pas sûre que ce soit vrai. Je ne suis pas sûre. Mais ce qui est vrai, et là on revient à la question de l'espace et du temps, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, et il y a un lien... il y a la question du temps réel. C'est-à-dire que voilà, quand la Première Guerre mondiale éclate, la personne qui se trouve à ce moment-là en Argentine ne sait pas au même moment que la Première Guerre mondiale a éclaté. Et la prend peut-être 2 mois plus tard ou 1 mois plus tard, je ne sais pas. Quand la première tour est percutée, les gens allument leur télé le 11 septembre et voient en direct la deuxième tour percutée, entendent cette journaliste qui crie « Oh my God, oh my God !» et voient en direct les gens se jeter des tours, les tours s'effondraient. Il y a ce temps réel. Et je crois que c'est ça qui est plus important, enfin pas plus important, les événements sont toujours importants encore une fois. Mais c'est plus important encore que les événements, c'est que la perception qu'on en a se fait en temps réel. Et que donc, nos consciences sont, parce que c'est un roman aussi de conscience en fait, nos consciences sont percutées en permanence, enfin beaucoup plus, par des événements qui n'ont pas lieu en bas de chez nous, qui n'ont pas lieu même à quelques kilomètres, qui ont lieu à l'autre bout de la Terre, mais qui entrent en nous. Et ça, c'est l'époque. C'est l'époque qui veut ça. Les événements graves, il y en a toujours eu. Et dramatiques et terribles. Mais là, il se trouve qu'on les vit d'une autre manière parce qu'on est connecté, comme on dit. Et ça crée forcément... Alors, il y a les indifférents, il y a ceux qui choisissent l'indifférence. Et dans le livre, il y a plusieurs personnages que Mathilde va croiser. Et il y en a un qui lui dit qu'il a choisi l'indifférence. Il ne vit qu'en regardant ses arbres, parce qu'il s'occupe, voilà, il a des cerisiers. Il regarde ses arbres, sa vie, sa maison. Et l'existence, pour lui, c'est uniquement le périmètre de ce qu'il voit, de ce qu'il entend et de ce qu'il ressent, physiquement. Et puis, il y a ceux qui vont très bien dans leur vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, ces dernières années, très souvent, quand on dit aux gens « comment ça va ?», ils disent « moi, ça va bien, voilà, en dehors du monde qui ne va pas, ou malgré... » Voilà, il y a toujours ce rapport chez certains entre tout ce qui ne va pas et le fait qu'on peut avoir une vie qui va bien. Cette tension-là, c'est celle qui est creusée avec Mathilde.
Et ce qui est très beau et très intéressant aussi chez Mathilde, c'est que finalement, ces secousses du monde ou cette crise ou cette désorientation, elle passe davantage par le corps que par l'esprit. Elle devient insomniaque, elle perd la sensation du toucher, comme si finalement c'était son corps, son rapport presque de la matière au monde qui était bousculé, qui était désorienté. Ça, vous dites, Mathilde est arrivée. Est-ce que cette dimension-là, c'est arrivée aussi ? Comment ça marche ? Comment vous envisagez finalement la traduction de ce malaise par le rapport au corps ?
Alors en fait, quand elle est arrivée, ça, et que j'ai commencé à écrire le livre où on la sent percutée par les événements, j'ai senti qu'il n'était pas question d'écrire... C'est pas un essai, c'est pas parce qu'on parle d'un personnage qui est en rapport avec l'actualité. De toute façon, dans mes livres précédents, il y a toujours cette tension, malgré moi, entre l'individu et le collectif. Je crois que je peux pas écrire forcément des personnages détachés de l'histoire et de l'époque. C'est comme ça. Là, en ce qui la concerne, je voulais pas écrire un roman qui serait une sorte d'essai déguisé. Je voulais pas que ce soit théorique. Et Mathilde n'est pas une intellectuelle. Elle s'empare pas de ces questions-là de manière intellectuelle. Elle ne cherche pas à théoriser. Et là, je me suis dit, mais la meilleure façon de percevoir les choses, c'est vraiment d'entrer dans son corps. Il y a deux choses que j'ai envie de dire par rapport à ça. La première, c'est que tous ces événements qui donnent le sentiment que plus rien ne sera comme avant. Donc je dis, à la fois on perd une innocence. Perdre l'innocence, c'est perdre la confiance dans le fait que la vie est possible sur Terre, qu'une vie bonne est possible. Ça, c'est la perte de confiance. Mais en fait, je crois que quand tout s'effondre, au contraire, on retrouve une forme d'innocence, c'est-à-dire qu'on ne sait plus. On ne sait plus où va le monde, on ne sait plus déchiffrer la réalité, on ne sait plus expliquer le monde dans lequel on est. Et donc on retrouve une forme d'innocence. Et l'innocence, ça passe par le corps, vu que voilà, l'enfant qui arrive au monde, il perçoit le monde par son corps. Quand on observe les nourrissons, on voit très bien qu'ils réagissent avec tout le corps. Quand ils sont heureux, ils sont bien, on le voit, ils sont là, Béa, il y a tous les traits détendus, tout le corps comme ça. Et quand ils sont malheureux, peut-être parce qu'il y a une petite bulle d'air bloquée, et qu'ils sont vraiment, ils souffrent, c'est des pieds à la tête. Un nourrisson, il ne va pas juste poser la main sur le ventre. C'est tout le corps qui va réagir. Et donc, cet état d'innocence, pour moi, passait par le corps. Et je suis entrée, et là, subitement, voilà, j'ai senti que ses sens s'aiguisaient. Donc, comme elle devient insomniaque, mais c'est venu très naturellement, elle est insomniaque. Donc, la nuit, elle est là, elle est réveillée, mais elle ne veut pas réveiller son mari et sa fille. Donc, elle n'allume pas la lumière. Elle se dirige à tâtons, donc son regard s'aiguise, son oreille, elle entend dans le silence, évidemment. Ses sens s'aiguisent, et puis, tout à coup, elle perd le toucher. Et je ne me suis pas bien expliquée sur le moment pourquoi. Ensuite, j'ai compris. Mais j'entendais récemment deux choses, parce que j'aime beaucoup écouter mes contemporains. La philosophe Cynthia Fleury était invitée il y a quelques semaines sur France Culture pour parler précisément de la façon dont l'actualité nous percute. Je me suis dit, tiens, il parle de qui vivent sans le savoir. Et elle avait ces mots incroyables, elle disait, dans l'actualité qui nous percute, il y a quelque chose d'anesthésiant. Je me suis dit, bah, quand même, c'est fou, parce que c'est ce qui se passe pour Mathilde. Et le seul moyen de briser ça, c'est de chercher l'humain. Et c'est exactement le chemin de Mathilde. Donc ça, ça m'a frappée. Et la deuxième chose, j'entendais une écrivaine qui est aussi critique gastronomique, Ryoko Sekiguchi, qui est franco-japonaise. Et elle vient de sortir un livre là sur le fait qu'elle a perdu l'odorat pendant le Covid. Et donc, voilà, les sens en français... Enfin, le mot sens a quand même plusieurs sens. et je crois qu'inconsciemment, j'ai su que c'était en passant par les sens, les différents sens, que j'allais trouver un sens aussi. Et quand j'entendais Ryoko Sekiguchi parler de l'odorat, et de la façon dont l'odorat nous relie à plus vaste que nous, par exemple, l'odorat, c'est toujours, en fait, on sent pas notre intérieur. Donc on sent toujours, on perçoit par l'odorat quelque chose d'extérieur. Et j'étais très sensible à ça et je me suis dit, bon, bah, avec Mathilde, j'avais trouvé quelque chose qui permettait d'affronter ces questions de manière romanesque, littéraire, par la langue aussi. Qu'est-ce que ma langue va pouvoir dire de tout ça? Et pas du tout de manière théorique, parce que je n'ai pas les compétences pour le faire de manière théorique.
Peut-être encore une chose, parce que c'est vrai que lorsqu'on attaque le livre, on se dit que ce personnage de Mathilde, il n'est peut-être pas un double ou un alter ego de vous-même, mais on imagine qu'il y a des sensations, un rapport au monde, une inquiétude qui peut avoir un lien avec vous-même. Et en même temps, elle est très différente de vous, elle est un personnage romanesque, et notamment dans le fait qu'elle retourne en Israël, elle a une partie de sa famille qui est là-bas, mais finalement, lorsqu'elle part en Israël, elle est une forme de Candide, si j'ose dire, ou en tout cas quelqu'un qui ne connaît pas aussi bien peut-être le pays.
Elle y est allée une fois à 6 ans.
Exactement. Mmh. Est-ce que ça, c'était un enjeu important pour vous dans le regard porté justement sur ce territoire, sur l'histoire, sur ce pressentiment que la violence était encore à l'œuvre? Est-ce que ce décalage-là sur la connaissance du territoire était important pour vous, pour peut-être porter un regard, entre guillemets, plus frais, plus naïf, plus distancié par rapport à cette réalité-là?
Oui, Mathilde a quelques points de commun, quelques points de contact, on va dire, avec moi, et je pense que elle est... que, oui, c'est un double transformé. Comme, voilà, quand on écrit, on est accompagné par certains livres. Et il y a eu un moment où j'ai beaucoup relu Philippe Roth. Et chez Philippe Roth, la question du double est quand même présente en permanence. Et un double, on pourrait parler toute l'heure de ce que signifie un double en littérature. Alors certains diront, ah, c'est une manière de se cacher ou de déguiser. Il y a les doubles de l'autofiction. Là, ce n'est pas du tout de l'autofiction, ce livre. C'est vraiment un roman. Moi, le personnage de Mathilde, j'ai senti qu'il était pour moi plus qu'un double, mais une sorte de prolongement d'une partie de moi. C'est-à-dire le prolongement de cet état dans lequel moi-même j'ai été de sidération, ou dans lequel moi-même je me retrouve, mais je ne suis pas la seule, je m'aperçois depuis la sortie du livre, mais je ne suis pas la seule à être régulièrement sidérée en me disant « Waouh, il s'est passé ça, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Où on va ?» Qu'est-ce qu'on fait quand Poutine envahit l'Ukraine? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un attentat? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a la guerre? Et donc, en fait, j'ai pris en moi cet état-là de sidération, qui est vraiment le mien, ça je le revendique, et je l'ai laissé se déployer dans un personnage. Et là, c'est le grand bonheur de de l'écriture. C'est pas à moi de dire que c'est de la littérature encore, mais c'est le grand bonheur de l'écriture, c'est de pouvoir prendre le temps de faire ce qu'on ne peut pas faire dans la vie, c'est-à-dire de préserver un espace où on va creuser des sensations, une idée, une trajectoire. C'est la fiction. Là, pour le coup, c'est de la fiction. Et dans cette fiction-là, il se trouve que moi, quand je commence à écrire, j'ai un personnage, une voix que je trouve, une forme de direction, mais je ne sais jamais où je vais. Je ne sais pas comment le livre va se terminer, je ne connais pas son titre non plus. J'ai vraiment besoin de... c'est comme ça, hein, c'est ni bien ni mal, mais j'ai besoin de creuser, de faire des tentatives, bref. Et très honnêtement, quand j'ai commencé à l'écrire, pour moi, c'était l'histoire d'une femme qui est... Voilà, elle est professeure d'histoire géo à Paris. Elle vit en France. Elle est juive, mais ça ne définit pas forcément un rapport à Israël, le fait d'être juif. Aux yeux des autres, peut-être, mais pas forcément à ses propres yeux. Et je pensais que le livre allait se dérouler là, à Paris. Et puis, il y a eu un moment... Alors, où elle regarde une vidéo en boucle, on en parlera peut-être, et c'est cette vidéo-là, ce moment-là, qui la pousse à partir en Israël. Ça, c'est ce qui se passe dans le livre. Mais la question que vous posez, c'est la question posée à l'écrivain Valérie Zenati, ou la personne Valérie Zenati, moi, qui... On sait que j'ai vécu en Israël, que je connais très bien ce pays, j'ai vécu 8 ans, donc pourquoi placer un personnage qui découvre le pays comme un candide. C'est relié à ce que je disais sur l'innocence. C'est-à-dire que j'ai senti que l'écriture de ce livre, qui voulait, le mot paraît grand, mais affronter quelque chose de l'époque, ne pouvait le faire de manière juste qu'en étant très innocent. Y compris par rapport à un pays que je connais bien. Et ça m'intéresse... Et alors... Là, il est temps peut-être aussi de dire autre chose, c'est que à ce moment-là, quand j'ai vu qu'elle allait partir en Israël, parce que vraiment j'ai vu que c'était son mouvement, j'ai un peu résisté. Je me suis dit, mais non, c'est pas. Moi, je voulais pas aller là. Je voulais pas écrire un livre qui se passe en Israël. J'en ai écrit 2 pour la jeunesse, quand j'étais soldate, une bouteille dans la mer de Gaza, 1 en retard pour la guerre qui est sorti en 2006, et depuis 2006, Israël n'est pas dans mes romans. Et donc, vraiment, il y a eu un moment où j'ai résisté. Je me suis dit, mais non, elle n'est pas obligée de partir. Mais j'ai compris à un moment donné que l'inquiétude que vous évoquiez, qui est celle de Mathilde, c'est-à-dire quel est le sens de l'histoire, où va le monde, a rejoint quelque chose qui est mon état lorsque j'écris. C'est une sorte de... Voilà, il y a des antennes qui grésillent tout le temps dans ma tête. Et je pense que pendant le moment où j'ai écrit toute cette partie-là, il y a quelque chose que je percevais, qui était pour le coup que je percevais moi, écrivain, moi, Valérie, je percevais que la prochaine catastrophe allait se passer en Israël. C'est pas de la prophétie, dans le sens. Mais après, il y a des gens qui disent que les prophètes dans la Bible, c'était tout simplement des écrivains. Hein. Bon, mais c'est pas pour comparer ça, mais en fait, voilà, c'est pas une prophétie, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est que je crois, et c'est ce que cherche à faire ce livre, à ce personnage, à sa manière, que quand on regarde vraiment les choses, on les voit. Et que le reste du temps, on croit qu'on les voit. Mais on ne voit pas vraiment. Et là, au fur et à mesure que j'écrivais et que j'avançais dans le livre, et c'est présent dans le livre, mais c'était présent en moi aussi, dans la personne que je suis, le pressentiment que la catastrophe suivante, ça allait être là-bas.
Alors c'est peut-être, moi je ne voulais pas effectivement trop ancrer ça dans l'actualité, oui, mais on va en parler parce que c'est quand même intéressant. Oui. Le livre, il est écrit, il se passe ce qu'il se passe le 7 octobre, le livre sort en janvier. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Parce que cette question quand même du pressentiment, c'est-à-dire le voyage qu'elle fait en Israël, les rencontres, la constatation des faits d'une certaine manière, emmène le personnage de Mathilde à avoir ce pressentiment que quelque chose de grave allait se produire ou que la violence de l'histoire allait ressurgir. Oui. Comment est-ce que vous regardez cela ? Vous dites que ce n'est pas une prophétie, mais quelque part la littérature vous amène effectivement à penser quelque chose avec, entre guillemets, un temps d'avance.
Alors, c'est assez étrange parce que si on reprend le fil romanesque, puisque c'est la question, c'est vraiment la littérature, À un moment donné, donc là, vous avez vu que le livre commençait par la mort de Leonard Cohen. Mathilde découvre sur Internet une vidéo de Leonard Cohen en concert en 1972 en Israël, à Jérusalem, à la fin de sa tournée européenne. Et ce sont 4 minutes qui la fascinent parce qu'il est là sur scène et il commence par dire, et il dit tout à coup, il s'interrompt, il cesse de chanter. Il dit, voilà, vous savez, il y a des nuits où l'on vole et d'autres où l'on ne décolle pas. Et cette nuit, nous ne décollons pas. Et d'une certaine manière, et donc il dit au public qu'il sent qu'il n'arrive pas à être présent dans ses chansons. Il n'arrive pas à chanter. Mais ce n'est pas parce qu'il est aphone, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de voix. Il n'arrive pas à chanter parce qu'il n'arrive pas à trouver la sincérité, l'authenticité pour chanter pour la énième fois la même chanson. Parce qu'on demande aux chanteurs de chanter leur chanson, et donc de chanter Suzanne, par exemple, et qu'il ne peut pas, qu'il sent qu'il triche. Et il quitte la scène en disant je ne peux pas tricher, je ne veux pas tricher. Et cette vidéo d'un grand artiste disant là, je ne suis pas juste, je ne suis pas dans la justesse, je ne suis pas réellement présent, je fais semblant, et je refuse de faire semblant, c'est cette vidéo qui secoue Mathilde. Et qui lui fait prendre conscience qu'elle ne veut plus faire semblant qu'elle est une prof qui sait tout face à ses élèves, puisqu'elle ne sait plus, elle a le sentiment qu'elle ne sait plus. Et c'est ça qui fait qu'elle quitte sa propre scène et qu'elle part en Israël. Pourquoi je raconte ça à ce moment de la question ? Parce que en 72, donc voilà, 1972, en Israël, elle va retrouver un cousin à qui elle demande si par hasard, parce qu'elle se souvient que quand elle était petite, elle le regardait, elle entrait dans sa chambre et il écoutait Leonard Cohen. Donc elle lui dit, mais est-ce que tu étais à ce concert ? Et il lui dit, non, j'y étais pas, mais j'ai mieux. Et là, il lui raconte qu'en 1973, quand il y a eu la guerre de Kippour, qui était une guerre très importante aussi dans l'histoire de la région, Leonard Cohen est venu chanter pour les soldats dans le désert du Sinaï. Et qu'il était là. La guerre de Kippour, c'est donc le 6 octobre 1973. Le 6 octobre 1973. Et à travers donc Leonard Cohen, à travers ce personnage de Rafi, le cousin qui raconte, Leonard Cohen qui raconte la guerre de Kippour, la guerre de Kippour est entrée dans mon roman. Et il se trouve que voilà, le 7 octobre 2023, tout le monde, tous les commentateurs ont tout de suite parlé de la guerre de Kippour. Ça se produisait 50 ans et un jour après. Et ce n'était pas un hasard, ce n'était pas anodin, et dans, en quelque sorte, pas les mêmes circonstances, mais avec le même mode opératoire. C'est-à-dire d'attaquer Israël un jour de fête, ce n'était pas Kippour, c'était une autre fête qui a lieu quelques jours après, un samedi. Les gens sont un peu déconnectés, les soldats sont la plupart rentrés chez eux, ils ne sont pas dans les bases. Il y a eu une réplique, une répétition de la guerre de Kippour, 50 ans et un jour après. Ce qui est fou, c'est que moi, quand j'écris ça, je l'écris un an avant, et c'est un personnage qui m'emmène, c'est Leonard Cohen, via ce personnage, qui m'emmène vers ça. Je ne peux pas l'expliquer. Je peux juste dire qu'il y a ce chemin qui s'est produit, qui est venu. C'est l'écriture qui a fait ça, bizarrement. Et c'est une sorte d'alchimie qu'on ne maîtrise pas, mais qui se produit quand même. Bah, d'ailleurs, les alchimistes, je crois, ne maîtrisent pas tout. Donc c'est comme ça que l'histoire est revenue dans le roman et le pressentiment aussi la conscience que j'écrivais un livre où finalement le mystère était devant et pas derrière.
Et d'ailleurs, je disais en introduction que le livre était une sorte de road trip, c'est-à-dire qu'on navigue, on part de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem en passant par un certain nombre d'étapes. Et on a l'impression en fait qu'au fil du livre et au fil de l'avancée de ce personnage de Mathilde, presque une avancée géographique, elle va de plus en plus au cœur du réacteur, si j'ose dire. C'est-à-dire que ça commence par un pressentiment. Et puis petit à petit, il y a quelques rencontres comme ça, quelques enjeux, quelques endroits. On ne va pas révéler la fin du livre, mais comme si petit à petit, il y avait une sorte de fil invisible qui l'emmenait à aller au cœur du réacteur et au cœur du problème, et donc au cœur peut-être du pressentiment. Est-ce que vous l'avez envisagé comme ça, ce déplacement ? Et peut-être vous pouvez nous dire un mot de la façon dont petit à petit, elle se rapproche de ce cœur-là.
Alors, je crois qu'elle s'en rapproche parce qu'à partir du moment où, donc, quand elle est encore à Paris et où tous ses sens, à part le toucher, sont décuplés, elle-même le dit, c'est ce que j'ai senti d'ailleurs, elle comprend plus le monde dans lequel elle vit et elle se transforme elle-même en enquêteuse. Elle dit, mes sens développés avaient ancré en moi une âme d'enquêteuse. Mais donc, elle enquête sur quoi ? Elle enquête sur la nature humaine, c'est-à-dire c'est semblable. Et donc dans la rue, elle regarde les gens, elle les écoute. Quand elle est au tabac, il y a un couple qui est là qui demande des cartes à gratter avec les signes astrologiques. Et puis la dame dit donnez-moi un lion. Et puis le buraliste dit bah non, j'ai pas de lion, j'ai un bélier. Alors le mari dit bon, on prend le bélier. Et la femme dit ah non, j'ai pas envie de gratter un bélier moi. Et là Mathilde se dit mais c'est merveilleux cette phrase. C'est la première fois qu'elle entend cette phrase. J'ai pas envie de gratter un bélier. Et elle se dit mais c'est beau, une phrase neuve, une phrase que peut-être personne n'a jamais prononcée, personne n'a jamais entendue. Donc elle est dans cet état de perception de ses semblables qui est très très fort, et elle se met à suivre ce couple dans la rue pour les entendre parler, parce qu'elle se dit mais ils parlent comme personne ne parle, et donc elle se transforme réellement en enquêteuse, mais disons que son enquête porte sur ce qui l'entoure. Dans le livre, à part ce moment où voilà, ces moments où elle est percutée par les événements, quand elle s'en va, elle écoute plus la radio, elle regarde plus la télé, elle regarde plus son téléphone portable. Elle regarde qui est autour d'elle, qui est devant elle, et elle entend, elle voit. Et c'est cette enquête-là qui va la mener finalement, disons que le seul acte, on va dire, qui peut relever de la criminalité, c'est la fin. C'est comme si son enquête l'a menée vers le crime. Et ce fil invisible, il est tout simplement relié au fait qu'elle perçoit les choses, elle les voit elle-même, elle entend, et elle suit d'instinct. Son envie quand elle est en Israël, tout à coup elle voit sur la carte qu'il y a Capharnaüm qui est pas loin, à 1h15 de route. Alors Capharnaüm, on sait, voilà, c'est dans les évangiles, c'est Jésus, puis tout à coup c'est à 1h15 de voiture, et donc elle va à Capharnaüm, mais pour la beauté d'aller découvrir un lieu qui pour elle n'était relié qu'à Jésus jusque-là, et tout à coup c'est une ville réelle, terrestre, mais Jérusalem aussi c'est une ville réelle et terrestre, et donc elle se laisse guider par ça, sauf qu'en fait à force de, comme elle se laisse guider avec cette intuition, elle va au cœur du réacteur, et ça il y a un moment où je l'ai vu, j'avais un temps d'avance sur elle. Et bon, j'y suis allée avec elle.
Un petit décalage par rapport à Mathilde, puisque tous ces sentiments qu'elle a, ces pressentiments, ces regards qui arrivent à une forme de lucidité, on imagine que vous aussi, vous les avez eus, non pas avec un regard candide. Est-ce que vous, peut-être je fais une petite incise plus personnelle, dans votre rapport à ce pays, à ce que d'ailleurs les habitants appellent la Terre, est-ce que vous diriez que cette réalité, ce côté inflammable, cette non-résolution du terreau finalement de la guerre et de la violence, vous l'analysez, vous le voyez, ou est-ce que c'est vraiment par l'intermédiaire de ce personnage que vous accédez à une forme de lucidité par rapport à cela ?
Je crois que c'est beaucoup passé par le personnage, mais par le fait que j'écrivais. Voilà, j'ai écrit ce livre entre 2021 et juin 2023. Donc c'est quand même beaucoup passé par elle. Par ailleurs, je m'en cache pas, j'ai pris la parole plusieurs fois en mon nom propre, pas au nom de Mathilde, depuis le 7 octobre à la télé ou à la radio. Et si on m'a sollicité, c'est parce que Israël est le sort des Palestiniens. Et si je dis pas la Palestine, c'est pour une raison, c'est que il n'y a pas de territoire qui s'appelle la Palestine, là, et qui est, admis en tant que tel. C'est les Palestiniens eux-mêmes ne peuvent pas définir clairement. Il y a un problème géographique, pour le coup, qui se pose très clairement. Mais, le sort des Israéliens, le sort des Palestiniens, c'est pour dire simplement, parce que je veux parler des êtres, m'importe depuis longtemps, parce que j'y ai vécu là-bas, et que j'y ai vécu entre 13 et 21 ans, et j'avais 17 ans au moment où a éclaté la première intifada. Donc la première, c'est la révolte des pierres, la première révolte des Palestiniens en 87, décembre 87. Et puis ensuite, voilà, il y a eu ça, il y a eu le processus de paix. J'étais journaliste à l'époque, donc ça, c'est ma vie, ça, c'est ma biographie. Et que cette question-là, je la pense depuis, et j'ai, ma conscience politique s'est forgée beaucoup avec elle, pas uniquement avec elle, mais c'est beaucoup forgé aussi en réfléchissant à ces questions et en observant. Moi, je suis revenue vivre en France il y a longtemps maintenant, en 91, mais en observant ce pays et ses peuples de très près, j'ai vu des choses à l'œuvre, j'ai vu les choses se dégrader, j'ai vu... mais il faut être aveugle pour ne pas les voir. Et je pense, et je le dis souvent, que si on veut comprendre ce qui se passe quand il y a la guerre, en réalité, il faut s'intéresser à ces endroits-là quand il ne se passe rien en apparence. C'est quand il ne se passe rien en apparence que les choses se jouent. Et voilà, l'année dernière, on ne parlait pas trop d'Israël et de la Palestine. On parlait un peu d'Israël et pas suffisamment, je pense, parce qu'il y avait une très forte opposition démocratique à une réforme voilà, qui est en cours. Et initié par la droite et l'extrême droite au pouvoir, une réforme du système judiciaire. Mais ça n'intéresse pas. Oh, une réforme du système judiciaire, des démocrates israéliens qui manifestent, ça intéresse un peu. Mais ce qui se passait était très important et relié à ce qui s'est passé évidemment au 7 octobre. Ça, je le dis parce que c'est... voilà, ça, je mettrai du temps à expliquer toutes ces questions-là. Mais tout ça pour dire que, oui, il y a des moments où ma conscience personnelle est, voilà, est présente certainement. Mais c'est le personnage qui prend le pas. Parce que vraiment, je crois que c'est pour ça que la littérature, c'est plus intéressant pour moi que, enfin, la fiction qu'un essai. C'est que ça permet de passer par la poésie, en quelque sorte. Mathilde, quand elle fait ce voyage, elle rencontre des gens qui sont des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains ancrés dans leur vie. Son cousin qui est à la retraite, un vendeur de cerises, une femme qui tient une bicoque dans le désert où elle fait des grillades et des salades. Elle ne rencontre pas des historiens, des philosophes, etc. Elle rencontre des gens de chair, de sang, ancrés dans leur vie, qui tous lui disent quelque chose. Et là, la fiction est intéressante parce qu'elle part des êtres, elle part des individus. Et c'est ce qui m'intéresse au fond, c'est ce qui m'intéresse en littérature, mais c'est ce qui m'intéresse aussi dans l'analyse de ce qui se passe dans le monde. Et c'est pour ça que je suis pas... Voilà, enfin, bref, ce qui m'intéresse, c'est de ne jamais oublier qu'on parle d'êtres vivants, comme nous. ce ne sont pas des abstractions.
Vous parlez des personnes, des personnages qu'elle croise au fil de son périple, et vous avez parlé de Yoram tout à l'heure, le rapport aux arbres et à une forme de mise à distance finalement du réel historique. On pourrait parler de Edna, on pourrait parler de Ophée qui a effectivement Rafi, et finalement ils sont très incarnés dans quelque chose d'une vie minuscule, pourrait-on dire, et en même temps ils sont les symboles, me semble-t-il, de quelque chose, c'est-à-dire que Yoram serait le symbole de l'indifférence, du choix de l'indifférence. On pourrait parler de Constance, la metteuse en scène de théâtre, qui est aussi peut-être le symbole à la fois du rapport à l'art, à la création et à une forme d'engagement politique. Comment est-ce que vous travaillez là-dessus ? C'est-à-dire, est-ce que ces personnages, ils arrivent aussi, comme est arrivée Mathilde, ou est-ce qu'ils sont quelque part la quintessence, le symbole d'enjeux plus larges que vous avez envie d'évoquer ? Dans votre cuisine, comment ça marche, cette chose-là ? Est-ce que ce sont des... Voilà, d'abord des vies minuscules qui prennent peut-être une dimension allégorique plus large, ou est-ce que c'est une volonté aussi de placer des personnages qui ont chacun valeur de symbole. Ou de métaphore plus large ?
Non, justement, ça, je voulais l'éviter. Et d'ailleurs, j'ai enlevé un personnage qui a été écrit au départ, et parce que justement, j'avais le sentiment que c'était trop et que ça faisait presque système, alors que ce n'était pas ça que je voulais faire. Ce que je dis aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ces personnages et tout le road trip de Mathilde, outre le fait que moi-même je ne conduis pas, je n'ai pas le permis et que c'est la première fois que je conduis dans un livre. Donc ça, c'était une vraie joie d'être au volant d'une voiture et de dire voilà, je peux le faire. Et
une voiture qui tombe en panne en plus.
Une voiture qui tombe en panne. Mais voilà, donc ça, c'était très très bon d'être au volant de cette voiture. Et je dis que là où j'ai eu du plaisir quand même, quand, voilà, quand j'ai compris que le mouvement du livre et le mouvement de Mathilde, c'était d'atteindre Jérusalem à un moment donné. Voilà, que je veuille ou non, c'était sa trajectoire. J'ai retrouvé du plaisir que j'avais eu dans En retard pour la guerre ou Une bouteille dans la mer de Gaza. Ces lieux, que ce soit Israël, mais finalement tout le Proche-Orient, le Liban, les Palestiniens, enfin disons, je dis tout le Proche-Orient, je ne connais pas tout le Proche-Orient parce que ce n'est pas facile de circuler entre les États là-bas, mais disons que je connais voilà, des Israéliens, des Palestiniens, des Libanais principalement. J'ai retrouvé ce plaisir qu'on voit quand on regarde le cinéma israélien ou libanais, ou palestinien d'ailleurs, parce qu'il y a un cinéma palestinien aussi, palestinien-israélien, ou les séries aussi. C'est le plaisir de personnages très forts. Je sais pas, enfin voilà, les gens qui regardent des personnages très forts et qui sont là pas forcément en tant que symbole, mais parce que ces régions-là offrent réellement des personnages à chaque coin de rue. C'est dû à beaucoup de choses. C'est dû au fait, par exemple, si on parle d'Israël, c'est dû au fait que Israël est constitué de gens qui viennent de 135 pays différents. Donc on a une diversité, voilà, c'est vraiment la tour de Babel. On a une diversité d'origine à tous les coins de rue. Il y a tout ce panel du rapport au sacré, au religieux, qui va vraiment des anti-religieux aux plus orthodoxes. Et c'est présent partout, tout le temps, c'est visible dans la rue. Israël, c'est un pays où vous voyez quelqu'un, vous savez pour qui il vote. Vous le savez, à la façon dont il est habillé, coiffé. Et vous savez pour qui il vote. Pourquoi vous savez pour qui il vote? Parce que, d'une certaine manière, les gens sont très caractérisés. Et l'autre chose, c'est que c'est en écrivant le livre que je me suis... Et donc, il y a des personnages partout, en fait. Il y a des histoires partout. Et puis, évidemment, il y a la guerre qui est là. Et ça, c'est valable aussi pour les Libanais et les Palestiniens, par exemple. La guerre, là non plus, ce n'est pas une abstraction. La guerre, c'est une menace permanente, ça brise des vies, ça menace de briser des vies, ça menace de déraciner, ça menace et ça blesse et ça tue. Mais ça veut dire quoi concrètement? C'est-à-dire que les gens sont dans un état de vérité par rapport à eux-mêmes et aux autres qui ne peut pas s'embarrasser de nuances, de précautions. Non, ils y vont, ils disent ce qu'ils pensent, ils l'énoncent directement parce qu'on n'a pas le temps. Et donc ça crée des personnages qui sont très forts en fait, mais ils existent d'une certaine manière. J'ai pas cherché à des typologies. Pour le coup, je me suis promenée avec elle en voiture, et là, ben voilà, j'ai rencontré les gens au fur et à mesure.
J'adore les écrivains qui disent que l'écriture leur permet de conduire une voiture.
Ah oui, ça, on en parlait avec François Bégodeau tout à l'heure, et on a dit qu'en fait, les écrivains se divisent. Pas entre les réalistes, les surréalistes, non, c'est entre ceux qui ont le permis et ceux qui ne l'ont pas. Et ça implique beaucoup de choses. Moi, c'est la première fois qu'un personnage conduit dans mon livre. Parce que juste là, il n'avait pas besoin de... Enfin, il ne conduisait pas, mais ça a fait d'autres livres. Voilà.
Peut-être un mot sur le rapport à la foi, à la religion et à Dieu, si on peut dire. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que finalement Mathilde s'était détachée de la foi religieuse pour peut-être avoir une nouvelle religion qui était l'histoire. Elle a cette phrase d'ailleurs, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'on peut s'en passer si facilement. Je trouve ça... vous avez deux heures, comme disait l'autre, mais ça pourrait être quelque chose de cet ordre. Et je voulais ajouter une dimension, c'est évidemment Léonard Cohen, le rapport aussi à vous dites, vous écrivez au début du livre que Mathilde entend ses chansons comme des prières. C'est une sorte de nouvelle religion, ou en tout cas un rapport aussi à la poésie, à la chanson, comme une manière d'ancrer quelque chose qui a à voir, à tout le moins, avec le sacré, pourrait-on dire. Oui. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous envisagez ces différents endroits et la figure même de Léonard Cohen?
Alors, déjà, par rapport à la question de croire, c'était quoi la phrase de Malraux sur le 21e siècle? Il disait le 21e siècle.
Je ne sais pas, on dit là, sera religieux ou ne sera pas.
Religieux,
mais
c'était religieux.
Il y a des discussions, me semble-t-il, d'accord, sur la phrase exacte. Mais...
D'accord, parce que je me demandais si c'était vraiment religieux le mot, le terme exact. Mais en réalité, moi, ce qui me frappe, c'est que ça part d'abord de mon expérience personnelle. Je suis née aussi dans une famille croyante et pratiquante. J'ai cessé de croire. Pas tout à fait au même âge que Mathilde. Et il y a eu un moment où moi, je me voyais cartésienne, logique, tout pouvait s'expliquer. Il y avait la science, la physique, la biologie, l'histoire, tout était là. Tout était explicable. Bon, il suffisait de mettre le nez. Ce qui n'est pas forcément faux. Sauf que, et je ne voulais que des... Voilà, pour moi, il n'y avait que des explications rationnelles. Sauf qu'en réalité, je crois qu'avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que on peut certainement tout expliquer de manière rationnelle, mais il faudrait faire appel simultanément à toutes les disciplines. C'est-à-dire que peut-être pour comprendre certains moments, il faudrait en même temps convoquer l'histoire, la philosophie, la médecine, la biologie, l'astronomie, vous voyez ? Et ça, enfin, je ne connais pas quelqu'un capable, au même moment, d'embrasser tout ça. Et c'est ça qui est... moi, finalement, je crois que je continue d'écrire avec mes questions d'enfant. C'est de l'infiniment petit de nos vies et l'infiniment grand du monde, de l'espace et du temps. Et c'est ça qui me fascine. Donc, oui, quand on pense à ça, de mon point de vue, il y a quelque chose de sacré, même si l'on ne croit pas. Et pour moi, il y a quelque chose de sacré dans la vie. Alors attention, parce qu'après, il y a des grands débats sur la fin de vie ou l'avortement. Mais c'est pas, quand je dis de sacré dans la vie d'un être qui est là, qui est debout, qui est... Il y a quelque chose de sacré dans le sens où on ne peut pas porter atteinte à ça. On ne peut pas. Puisqu'on n'est on n'est pas l'autre, donc on ne peut pas, on ne doit pas. Cette dimension sacrée de la vie des gens, de l'intégrité du corps, de l'intégrité de l'âme, ça, c'est quelque chose qui est pour moi sacré. Pour moi, c'est l'humanisme. Ce livre, il veut aller vers ça sans théoriser du tout. Mais l'humanisme, c'est un mot qui a été un peu piétiné par les anti-humanistes. Dans toutes ces dernières années, qui ont créé le terme terrible de droit de l'homisme, par exemple. Hein. Les gens qui sont contre les droits de l'homme ont créé ce terme, les droits de l'homisme. Et comme si l'humanisme, c'était... Il y a eu beaucoup de mépris à vous, les humanistes. Vous êtes des bisounours, des trucs comme ça, très violents, en fait. Non, l'humanisme, c'est une position qui pour moi est fondamentale. Et donc, Dieu n'est pas là quand je parle de ça. Mais c'est la dimension sacrée qui est là quand même. Et la poésie et la beauté du monde. Il y a des choses de sacrées là-dedans aussi qui s'abîment, qui est en danger, mais auquel on tient. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps. Justement, effectivement, il fallait 2 heures. Hein, c'est pas, mais ce que je voulais dire, c'est que je me suis aperçue aussi, ce n'est pas forcément dans le livre, mais qu'en réalité, par exemple, si on prend le cas de la pandémie, je me suis dit, mais en fait, tout le monde croit. Même quand les gens pensent ne pas croire, ils croient. Parce qu'il y a des gens, par exemple, des gens pratiquants, religieux, pieux, qui ont vu les signes de la fin des temps, la main de Dieu. Enfin voilà, une épidémie, c'est forcément Dieu. Après, il y a les complotistes, par exemple. Les complotistes croient en quelque chose. Ils croient au complot. Ils y croient très fortement. Ils croient en quelque chose. Les gens qui sont écolos, fondamentalement écolos, ils croyaient aussi à quelque chose. Ils se sont dit... Cette maladie-là, c'est la Terre qui nous dit, il faut se calmer, il faut peut-être arrêter de consommer, il faut peut-être arrêter de voyager, de prendre l'avion. Et la preuve, on est tous restés coincés chez nous pendant 2 mois et demi. Et je me suis dit, mais en fait, cet événement-là, qui est un événement commun, collectif, il peut être vu par différentes personnes de différentes manières. Et ils pensent tous avoir raison. Donc au fond, je me dis, même quand on croit être rationnel, tout le monde croit. Et cette question de en quoi croit-on, elle est fondamentale, d'autant plus que, voilà, à un moment donné, on a pensé qu'il n'y avait plus besoin de croire, mais bon, voilà.
Encore une ou deux petites questions, puis ensuite on va s'arrêter. Il y aura un temps, bien sûr, de dédicace où vous pourrez rencontrer Valérie et échanger avec elle. Peut-être encore une chose, on n'a pas évoqué quelque chose qui est au cœur du livre, mais je laisserai au lecteur le plaisir de découvrir cela, parce que, comme je vous le disais avant la rencontre, c'est un vrai moment aussi de rupture. C'est le rapport au grand-père de Mathilde, les feuillets du grand-père. Et quelque chose peut-être que je voulais évoquer avec vous pour terminer, c'est que ce livre me semble être un grand livre aussi sur la mémoire, sur les traces et d'une certaine manière sur la transmission. Il y a le grand-père, il y a ces feuillets laissés par le grand-père qui ont d'ailleurs du mystère. Il y a les articles de journaux que Mathilde collectionne presque frénétiquement comme une espèce d'archivage du monde. Il y a le rapport à la fille qui est bien sûr la génération d'après. Donc il y a cette idée que finalement le livre est aussi une histoire de mémoire, de transmission, de traces, et on pourrait presque dire que c'est un programme littéraire en soi. Peut-être dire un mot de cela, parce que c'est quand même très présent au cœur du livre. Et finalement, même la manière dont elle visionne les archives de Leonard Cohen, ces passages que vous avez évoqués tout à l'heure, ça a à voir avec cette dimension-là, il me semble.
Oui, merci beaucoup de le voir comme ça, parce que c'est vrai que donc Mathilde a un grand-père très âgé, qui a 98 ans, et qui a plus toute sa tête, comme on dit, mais une manière très chaotique et poétique de s'exprimer. Et au fond, Mathilde, ça lui convient bien, parce que dans ce monde qui est devenu un peu n'importe quoi, son grand-père est une sorte de refuge, je crois. Et puis, 98 ans, c'est un âge avancé, et à sa mort... on découvre la personne, la directrice de l'institution dans laquelle il se trouvait, donne à Mathilde des feuillets, 10 feuillets qui ont été retrouvés dans sa table de nuit. Et on lit les feuillets avec Mathilde. Et c'est vrai que là, je vous préviens, il y a une rupture de ton, puisque ce n'est plus la voix de Mathilde, ce sont les feuillets. Et elle lit une histoire qui commence par des arbres au cœur de la forêt, et puis qui est en elle-même une histoire avec finalement presque un début, un milieu, une fin, c'est 10 feuillets. Je les ai écrits moi, je les ai pas pris ailleurs. Alors il y a deux choses pour moi là. J'aime beaucoup le mot mystère, parce que un ami me faisait remarquer hier que il y a un philosophe qui m'a beaucoup accompagnée, là, c'est Vladimir Jankélévitch, qui a beaucoup écrit sur la musique, et ces passages-là ont à voir aussi avec la musique. Et Jankélévitch distinguait le secret du mystère. Le secret, c'est quelque chose qui est caché, mais qu'on peut identifier, et on peut découvrir un secret, on peut écrire des romans policiers où il y a un secret, et Mais le mystère... c'est ce qui, par définition, reste mystérieux. On ne peut jamais épuiser le mystère. Et là, ces pages, ça peut être un peu troublant, parce que ce n'est pas un roman où on va chercher qui a écrit ces pages-là et on va le découvrir. En revanche, oui, dans ce que vous dites, elles sont là pour plusieurs raisons. Je crois que je suis très heureuse que ce soit visible, cette question-là de la transmission, parce que j'ai composé ce livre avec ça, avec ces tableaux-là, on va dire, ces personnages. Mais je crois que c'est le lecteur qui voit ce qu'il veut voir. J'ai laissé la liberté au lecteur de voir ce qu'il veut voir, en fait. Parce qu'un des enjeux pour moi de l'époque, c'est comment la déchiffrer. Et j'ai voulu que ce livre soit aussi déchiffrable par chacun à sa manière. Donc il y a des indices, il y a des résonances. Mais ce n'est pas des indices que j'ai cachés exprès là, mais pour moi, il y a des résonances. Ces feuillets-là, ils racontent quelque chose qui a à voir avec le livre, que chacun peut interpréter à sa manière.
Dernière chose, parce que je ne l'ai pas évoqué, et vous parlez de mystère, et on a toujours aussi un regard sur le mystère de l'écriture. Ce livre, il y a aussi un certain nombre d'endroits. Vous avez dit tout à l'heure que Leonard Cohen, lorsqu'il dit qu'il ne veut plus chanter, il dit que parfois on s'envole et parfois pas. Et c'est aussi une histoire d'envol. C'est à la fois l'envol de Mathilde. Oui. D'ailleurs, lorsque son mari la rencontre, il lui dit qu'elle ressemble à un oiseau.
Tout à fait.
Enfin, c'est peut-être un détail pour vous, comme disait l'autre, mais pour moi...
Il y a beaucoup de... Non, au contraire.
Donc, c'est aussi une histoire d'envol.
Pour moi, ça veut dire beaucoup.
Voilà. Est-ce que pour vous aussi, ça veut dire beaucoup, cette question des oiseaux et de l'envol? Et puis, on en terminera peut-être là-dessus.
Est-ce que c'est le moment où on doit chanter? Mais complètement, parce que les oiseaux, si vous regardez, ils sont présents. Et à la fin, par exemple, il y a un oiseau qui arrive, qui se pose sur un balcon, c'est le vanneau à éperons, ou le vanneau armé, qui est un oiseau très particulier, qui a vraiment des éperons sous ses ailes. Et j'ai découvert cet oiseau assez récemment, mais il a une place dans le livre. Les oiseaux, c'est pas un hasard, il y a les cigognes aussi, enfin, c'est pas du tout un hasard. C'est parce que... Oui, Télérama a consacré tout un numéro aux oiseaux il n'y a pas longtemps. Et voilà, il y a cette fascination du fait que les oiseaux, ce sont quand même les descendants des dinosaures. C'est-à-dire, c'est ce qui nous rattache aux dinosaures. Donc, ce qui nous rattache à une présence vivante sur Terre avant la nôtre. Et ça, déjà, rien de dire ça, c'est fascinant. C'est-à-dire, moi, les passages sur le grand-père, par exemple, enfin, les feuillets du grand-père, quand ils commencent par la forêt, on est dans la forêt, on est avec les arbres, et il n'y a pas forcément la présence humaine tout de suite. Et j'ai cette fascination pour un temps où la Terre existait sans les hommes. Juste comme une fiction qui m'intrigue beaucoup. Donc les oiseaux sont là pour relier le ciel et la terre, mais aussi les temps. Et ce sont des, mais là aussi, ils sont là, ils existent, les oiseaux. Moi, quand je dis il suffit de voir pour être parfois émerveillé, quand j'ai terminé le livre, et là, il y a une pie qui est venue se poser sur le balcon, et il y a des pies dans le livre aussi à un moment donné. Une pie est venue, bon, j'habite Paris, hein, on ne voit pas toujours une pie. Elle est venue au moment où j'ai mis le point final. Et voilà, mais je l'ai vue. Donc les oiseaux sont importants pour cette condition-là entre terre et ciel, c'est-à-dire le livre et ce que raconte Mathilde, c'est on est là dans nos vies, il y a du matériel, il y a du quotidien, on doit payer un loyer, on doit faire des courses, la vie exige ça de nous aussi. Mais il y a quelque chose qui nous dépasse quand même, et qui nous dépasse dans nos existences, mais aussi dans le temps, et les oiseaux sont là, voilà, pour ça.
Je vous remercie beaucoup, Valérie. Vous pouvez la retrouver pour un temps de dédicace.
Merci Yann, merci.
Qui vive. Merci.
Merci, 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 merci beaucoup.